passage à niveau ce dimanche 29 novembre. Oui, oui, le 6 décembre et le 13 décembre s'approchent, à savoir les élections régionales. Justement, pour nous parler de ces élections et pas seulement aujourd'hui, on est avec des candidats de la liste Europe Écologie Les Verts. Avec nous par téléphone, on a Emmanuel Cosse. Emmanuel Cosse qui en principe, bon, tout simplement, et participe à une chaîne humaine. Emmanuel Cosse, bonjour. Alors, c'est, avant de marcher, comme dirait l'autre, non, ça, c'est pas une marche, attention, à l'état d'urgence. Apparemment, c'est impressionnant, plus de 3000 chaussures à la place de la République.
Ben, en fait, comme vous le savez, les manifestations ont été annulées, et on peut le comprendre, hein, pour des raisons de sécurité. Donc, on a été nombreux à déposer des chaussures à la place de la République pour rappeler qu'on aurait dû marcher là. Et puis là, quand je vous parle, on est actuellement... Boulevard Voltaire, en train de faire une chaîne humaine pour rappeler notre engagement pour le climat et pour la planète.
Voilà. Alors, avec nous dans les studios, on a Pierre Cerne, tête de liste Europe Écologie Les Verts du 94. Alors, justement, alors, cette COP 21, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la montagne ne peut pas accoucher d'une souris?
La question est difficile. En même temps, c'est un enjeu majeur qu'on arrive à obtenir un accord qui engage les États vers une baisse des émissions de gaz à effet de serre et donc vraiment de protéger notre planète, parce qu'on souffre déjà du dérèglement climatique. On a beaucoup travaillé ces derniers mois. La discussion débute aujourd'hui, hein, ça va durer 15 jours la COP, les chefs d'État sont là demain. Nous sommes assez... Enfin, disons que tant que c'est pas fini, il faut être optimiste et nous verrons si nous arrivons vraiment à obtenir un accord. En tout cas, on va tout faire pour et je crois qu'il faut pas donner un point, enfin apporter un jugement d'échec avant qu'on ait tenté pour le tout pour le tout.
Alors, en même temps, on sait qu'il y a un certain nombre de grandes entreprises du CAC 40 et pas seulement des multinationales qui sont dedans. Alors, par exemple, bon, je sais pas, les gens qui du pétrole, le gaz, l'électricité et l'atomique. Alors, c'est possible que ces entreprises-là se disent aussi propres et qu'elles ont ce souci aussi.
Vous avez tout à fait raison. Il y a aujourd'hui des grandes entreprises pétrolières qui ont un rôle énorme dans le dérèglement climatique, et notamment toutes celles et ceux qui font de l'argent sur les énergies fossiles, que ce soit le pétrole ou le charbon par exemple, nuisent énormément à la planète. Et donc, évidemment, sont des entreprises qui ont un impact très déplorable sur la planète. Donc je ne dirais pas qu'elles voient d'un bon œil qu'il y ait une évolution mondiale, par exemple, pour des énergies renouvelables, comme le solaire, comme l'eau, comme le vent, qui évidemment n'ont pas les mêmes impacts en matière de dérèglement climatique. En même temps, pour vous dire les choses, il y a des entreprises qui aujourd'hui ont fait toute leur puissance sur le pétrole et qui sont très conscientes que dans quelques années, il n'y aura plus ces puits de pétrole et que très vite, ces énergies vont être complètement taries, donc elles sont bien aussi obligées de s'adapter. Et elles ont très bien compris qu'elles ne pourront pas continuer. Mais c'est vrai. Par exemple, quand on a beaucoup travaillé pour dénoncer des banques françaises qui investissent dans des installations liées au charbon, notamment en Turquie, mais aussi en Inde, qui sont vraiment, d'un point de vue de la pollution et des dégâts environnementaux absolument terribles, le fait qu'on ait pu les dénoncer et rappeler qu'il était inadmissible que des entreprises françaises, des banques françaises soutiennent de telles usines, ça a quand même permis de faire changer les choses. Et il y a y compris des banques qui ont mis fin à leur financement à de telles entreprises.
Voilà, alors changer les choses, et ça sera ma dernière question à vous, Emmanuel Cosse. Et Pierre Cerne, il nous écoute, hein, il n'y a pas de souci.
Oui, bonjour Emmanuel.
Bonjour Pierre.
Alors justement, changeons les choses, les régionales. On va voir les régionales le mois de décembre, dans un contexte assez difficile. Comment est-ce que vous, les Verts, vous voyez la situation?
Moi, de toute façon, la première chose que je voudrais dire à tout le monde, c'est que ces élections régionales, elles sont très importantes, parce qu'il s'agit de décider qui, pendant 6 ans, va s'occuper du quotidien de nos vies, les transports, le logement, l'alimentation, qu'est-ce qui se passe dans les lycées de nos enfants, ou l'emploi. Et c'est pour ça que moi, j'appelle vraiment tout le monde, dans cette période très difficile, parce qu'on est très marqué, très touché, évidemment, par ce qui s'est passé le 13 novembre, moi, j'appelle tout le monde à voter. J'appelle tout le monde à se déplacer le 6, parce qu'on doit exercer notre vote citoyen face notamment à la terreur terroriste qu'on a voulu nous infliger. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, les écologistes. dans cette période. Ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils se battent pour les Franciliens. Et vous en parlerez avec Pierre tout à l'heure, mais on s'est énormément battu sur la question des transports, pour avoir plus de transports, des transports moins chers, plus accessibles, plus nombreux, et nous allons continuer. Mais pour ça, il ne faut pas laisser la place à l'abstention, il faut se mobiliser, et les écologistes peuvent jouer un rôle très important pour améliorer la qualité de vie dans cette région.
Emmanuel Cosse, merci. Alors, je dis
merci
pas...
beaucoup.
Et à très bientôt, très bientôt.
À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Ouais.
Alors, Pierre Cerne, tête de liste Europe Écologie Les Verts dans le 94, vous êtes vice-président au transport du conseil régional et conseiller d'opposition à Vincennes. On parlera de Vincennes, on parlera aussi de sa mort des fossés, pas seulement. Bon, à propos du logement. Mais alors, pour vous, quels sont les enjeux des régionales? Bon, Emmanuel Cosse a déjà parlé un petit peu.
Ben, très sincèrement, elle a mis le doigt exactement sur ce que sont ces élections et qu'on a beaucoup de mal à faire entendre dans cette campagne. C'était déjà compliqué avant ce qui s'est passé le 13 novembre. Ouais. Ça l'est encore plus aujourd'hui. Et je comprends vraiment complètement que les gens qu'on rencontre sur les marchés, j'étais encore hier après-midi à Vincennes, les gens, ils n'ont pas forcément ça en tête. Les régionales, la question des lycées, des transports, du logement, parce qu'ils sont dans quelque chose de très marqué, marquant sur la question de la protection des personnes et de la sécurité. Mais il ne faut pas oublier que pendant 6 ans, ce qui va se passer dans la région va jouer sur la vie quotidienne de tous les habitants d'Île-de-France. Et c'est ça qu'on essaye d'essayer de faire comprendre, c'est que ce n'est pas des élections très éloignées des gens, c'est des élections qui vont concerner des politiques extrêmement précises sur des choses aussi bêtes que la cantine des lycéens. Et par exemple, quand on a décidé il y a 2 ans que désormais les cantines seraient payé par les familles au quotient familial, c'est-à-dire que quand on n'a pas les moyens,
en fonction de
et voilà, et que quand on n'a pas les moyens, bah l'enfant il va payer 50 centimes son repas. Ça c'est une nouveauté qu'on a apportée pendant ce mandat. C'est des choses qui paraissent très basiques, mais c'est ça aussi la politique. Et dans la politique régionale, il y a ça. Il y a aussi la question des transports. Évidemment, je suis bien placé pour le savoir. Et le pass à tarif unique. Qui permet depuis le 1er septembre à des millions de banlieusards de payer moins cher leur transport. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement concret, mais ça, c'est la région qui l'a décidé et qui l'a mis en application. Il ne faut pas l'oublier.
Alors, on a une réforme des régions. Maintenant, on va en avoir uniquement 13. Mais quand on parle de région, laquelle, c'est quoi la région? D'autant plus qu'on va élire un certain nombre de personnes pour une région dont toutes les compétences n'ont pas été, sont encore incertaines, disons. Parce que la réforme, elle n'est pas allée jusqu'au bout.
C'est vrai qu'il y a eu une succession de lois ces dernières années qui rendent les choses un peu complexes. Et pour rien vous cacher, même nous, on ne sait pas très très bien.
Voilà, justement, c'est ça.
Y compris parce que, alors on ne va pas parler technique, mais il y a une chose qui est nouvelle, c'est que les régions ont théoriquement perdu ce qu'on appelle la clause de compétence générale, qui permettait aux régions, en dehors de leurs grandes compétences, les transports, les lycées, le développement économique et la formation professionnelle, de s'occuper un peu de tout. Théoriquement, on n'est plus censé s'occuper un peu de tout. Et ça veut dire que théoriquement, on ne peut plus, par exemple, financer des associations qui ne s'occupent pas spécifiquement des questions de la région. Bon, moi, je fais le pari que quand on va se rendre compte de ce que ça veut dire en réalité, on va trouver les moyens de contourner ça et qu'on va continuer à la région à aider les associations, qu'on va continuer à aider les bases de loisirs qui permettent, par exemple, comme à la base de loisirs de Créteil, de faire une fête que vous connaissez bien chaque année. Ben oui, mais moi, il se trouve que moi, je suis membre du conseil d'administration de la base de loisirs de Créteil. Et donc, on traite des tas de choses, dont la fête, ben voilà, la fête annuelle dont vous êtes l'écran finalement organisateur. Ouais. Et je trouve ça important que la région puisse aussi vraiment s'occuper de ce genre de choses et traiter vraiment les choses qui concernent la vie quotidienne des gens. Alors, et c'est dommage parce que dans cette campagne, finalement, tout le monde parle de grands sujets nationaux, y compris des choses qu'on... pour le coup, rien à voir avec la région. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va changer la loi sur ceci ou sur cela, c'est un peu mentir aux gens de dire que les élections régionales vont toucher ça. Si on revenait vraiment au vrai sujet qui concerne les compétences de la région et les Franciliens, ce serait pas mal, notamment les transports.
Alors, région, c'est très bien. Gérer, c'est plus difficile, d'autant plus que les dotations. Bléta. Bon, et ça minuise. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, il y a 16 612 pétitions qui ont été remises au Premier ministre. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait ici, dans Val-de-Marne, justement, à cause de cette réduction des dotations. Davantage de responsabilités, davantage de dépenses. Et comment c'est possible?
C'est vraiment, à mon avis, la grande question dans les années qui viennent. C'est-à-dire, on donne de plus en plus de responsabilités aux collectivités locales, la région, les départements, les villes. Et en même temps, l'État, effectivement, a tendance à diminuer ce qu'ils allouent en financement. Voilà. Et donc, on est obligé de faire la même chose, voire plus, avec moins de moyens. On pourrait se dire, c'est bien, ça va permettre de faire des économies, mais en réalité, de quoi on se rend compte là, même dans le contexte des attentats, c'est qu'on a besoin de services publics forts. Quand on voit quand même, malgré le drame qui s'est passé, comment les hôpitaux, en quelques heures, se sont mis en état d'ouvrir des dizaines de blocs opératoires, de rappeler tous les médecins disponibles sur Paris et de faire qu'ils ont sauvé des dizaines de vies dans la nuit du vendredi au samedi et tout le week-end. Voilà, les transports ont réussi à absorber toute une mise en place d'un système sécuritaire encore plus important avec des milliers d'hommes qui ont été déployés. Et quand j'entends des gens qui disent il faut diminuer le nombre
de fonctionnaires
de la région, voilà, j'ai envie de leur dire où on les retire. Dans les lycées, alors qu'on demande d'avoir de la sécurité à l'entrée des lycées. Et je comprends que les familles aient envie que les gamins y soient protégés et donc qu'on ait des gens qui filtrent à l'entrée des lycées. Mais comment on fait si on diminue le nombre de postes? Moi, j'ai envie de dire, arrêtons la démagogie sur le côté moins de dépenses, donc moins de postes. Non, il y a besoin de fonctionnaires, il y a besoin d'un service public fort. C'est ce qu'on porte, nous, la gauche, et notamment les écologistes, sur un certain nombre de domaines. Par exemple, dans les transports, on préfère qu'il y ait des agents en plus plutôt que de mettre des caméras partout. Les caméras, elles permettent d'élucider les crimes une fois qu'ils sont commis. Mais une caméra n'a jamais empêché quelqu'un de faire quoi que ce soit. Et il y a besoin de renforcer la présence humaine dans les gares, dans les trains, dans les bus. Nous, on porte ça. On le propose de façon massive. On verra qui pourra l'emporter sur ce type de sujet. Mais tout le monde ne porte pas le même programme dans ces élections.
Alors, parlons d'un petit peu de logement. Valérie Pécresse. Quand elle a présenté son programme, elle a dit, entre autres choses, qu'il paraît qu'il fallait arrêter la construction de logements sociaux. Alors, ici, dans le 94, on sait l'importance du logement social. Comment faire? Parce que ça fait partie aussi des compétences, en principe, de la région.
Alors, la région, elle n'a pas la compétence directe sur le logement, mais par contre, elle finance, elle cofinance, elle apporte des financements, et il y a quasiment aucun programme de logements sociaux qui arrive à sortir sans un apport financier de la région. Donc la région a un rôle très important à jouer. Et on a aidé, notamment avec Emmanuel Cos, qu'on a entendu tout à l'heure, et qui était vice-présidente en charge du logement, on a mis 1 milliard d'euros sur les logements sociaux qui se sont développés, y compris d'ailleurs dans pas mal de villes de droite qui faisaient pas beaucoup de logements sociaux. Et dans le Val-de-Marne, il y en a quelques-unes qui sont un peu connues nationalement pour ça, Saint-Maur, Saint-Mandé, Vincennes... Finalement, la région a aidé les maires de ces communes à faire un peu, tout petit peu plus de logements sociaux. Moi, je comprends pas ce que dit Valérie Pécresse. En gros, elle explique, il faut arrêter d'aider le logement social dans les villes qui ont déjà beaucoup de logements sociaux. Donc, en gros, dans toutes les villes où il y a déjà des logements sociaux, on donne plus de financement. Et elle dit, on réserve les financements pour le logement social aux villes qui n'ont pas encore de logements sociaux. Et en même temps, elle défend les maires de ces villes, qui sont ces colistiers dans ces élections régionales, qui disent, nous, on ne peut pas faire du logement social chez nous parce que le foncier est trop cher et en plus, on n'a pas d'opportunité, faites du logement social ailleurs. Le maire de Saint-Mandé, il a passé des partenariats avec la ville de Montreuil pour loger ses fonctionnaires dans les logements sociaux de la ville de Montreuil. Si maintenant, on dit... on donne plus de sous à Montreuil pour faire du logement social et que Saint-Mandé n'en fait pas, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun programme de logement social qui va sortir. Et je pense qu'il y en a besoin, y compris, il faut savoir que 70% des Franciliens sont éligibles au logement social avec les niveaux de revenus qu'ils ont. Donc c'est hyper important de continuer à faire du logement social. Si nous, on est élus, on continuera à en faire et beaucoup. Et répartis sur l'ensemble de la région. Mais on ne peut pas dire à des villes qui veulent faire du logement social... Arrêtez, n'en faites pas. C'est vraiment ce qu'on a vu.
Par exemple, en ce moment, la PHP, qui est en train de vendre un certain nombre d'immeubles, histoire de récupérer pas d'argent, elle était en train de déplacer C'est-à-dire, elles ferment des appartements, ils obligent les gens à venir en banlieue. Donc, c'est des Parisiens, des gens qui travaillent dans les hôpitaux, etc., etc. Bon, c'est le monde à l'envers, non?
Bah, disons que la PHP décide un peu de mobiliser des immeubles où, en fait, souvent, ils faisaient pas grand-chose. Hein, faut dire ce qui est. Ils ont des réserves immobilières et foncières immenses. Moi, je pense à, par exemple à Villejuif où ils ont des ils ont plusieurs hôpitaux très très grands à Villejuif où il y avait des projets de création de logements sociaux à construire, mais sur les emprises justement de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Le nouveau maire de droite de Villejuif, je suis désolé de le dire, il a mis un trait sur ces constructions pour lequel la PHP était justement prête à construire. Donc vraiment, quand on pense que sur les collectivités locales, la droite, la gauche, tout ça, c'est pareil, non, c'est pas vrai. Alors ce qu'apportent les écologistes en plus, c'est qu'on veut que ces logements, ils soient construits avec une très bonne qualité thermique pour que les gens en plus dépensent moins d'argent sur l'énergie. Et on a un très gros programme de rénovation thermique, y compris des bâtiments qui existent aujourd'hui. Et c'est important parce que ça peut permettre de donner du travail à des dizaines ou des centaines de petites entreprises du bâtiment qui aujourd'hui n'ont pas accès à des marchés intéressants, qui vivotent avec des petits travaux. Si on fait un programme de plusieurs dizaines de milliers de logements en rénovation thermique, on va avoir besoin de s'appuyer sur l'immensité du réseau d'artisans et de petites entreprises qu'il y a partout, notamment dans le Val-de-Marne, beaucoup, et dont on a besoin parce que ça, c'est des emplois locaux non délocalisable, et c'est un gisement d'emploi énorme.
Faut-il encore qu'on puisse investir, qu'on ait de l'argent pour investir? Alors, les dotations, elles...
La région a été peu touchée par cette baisse des dotations, et théoriquement, la région va bénéficier de financements supplémentaires qui viendront de ce qui était avant donné au département. C'est un peu dommage pour les départements, mais au moins, on aura ça. Et surtout, ce qu'on porte, nous, c'est le fait que la région puisse mettre en place une redevance poids lourd pour les poids lourds en transit, pas les poids lourds qui desservent l'Île-de-France, mais les poids lourds qui profitent du fait que les autoroutes sont gratuites en Île-de-France pour faire 50 km gratuits.
Oui, mais voilà. comment on peut faire ça? Parce que l'Europe, elle va dire...
Non,
c'est l'Europe,
cette redevance, elle existe en Autriche, en Allemagne,
en Suisse,
mais dans beaucoup de pays de l'Union européenne. Ouais. Du moment qu'on ne fait pas de discrimination entre poids lourds français et poids lourds étrangers, tout le monde paiera. Du moment qu'on traverse l'Île-de-France, on paiera cette redevance. Ça, c'est entre 200 millions et 400 millions d'euros par an qui pourraient rentrer dans les caisses de l'État, de la région, pardon, si l'État nous donne l'autorisation de le faire. On demande, dans cette campagne, de pouvoir mettre ça en place. Et avec cet argent-là, ça donnera un énorme gisement de revenus qui permettra de déployer sur la lutte contre la pollution de l'air. Et franchement, le Val-de-Marne, avec un aéroport qui apporte beaucoup et des autoroutes qui apportent beaucoup de pollution de l'air, mais aussi de nuisances sonores, il y a énormément de travaux à réaliser qu'on promeut, et avec cet argent-là, on pourra le réaliser. Donc on n'est pas là en train de dire on fera avec ce qu'on trouvera. Non, on a des solutions, on a des financements qui sont disponibles assez rapidement et qu'on peut mobiliser sur ce type de choses qui, en plus, donneront de l'emploi au Val-de-Marnais et dans toute la région.
Revenons un petit peu au transport. Bon, il y a plein de choses qui sont en train d'être faites au niveau de la région. Apparemment, bon, il y a le tram, il y a un certain nombre de trucs comme ça. Mais il y a quand même un problème, ça concerne les régions, c'est que quand on travaille en banlieue nord et on habite en banlieue sud, etc., etc., c'est-à-dire, bon, concertation, il n'y a rien du tout, c'est-à-dire, on est obligé de passer par Paris. C'est des heures et des heures en plus.
C'est le problème majeur du réseau de transport d'Île-de-France qui est historiquement construit comme ça, c'est-à-dire tout le monde converge vers Paris tout le monde repart, Avec en plus un phénomène supplémentaire qui est qu'on a concentré les emplois, et notamment les emplois de bureau, dans l'ouest de Paris, la Défense. Et donc, il y a des grandes transhumances, ce que j'appelle, moi, la grande transhumance journalière. Le matin, tout l'est part vers l'ouest, et le soir, tout le monde repart. Avec la ligne 1, le RER A, et c'est 2 millions de personnes, rien que sur ces deux lignes, qui font dans sens le matin, dans l'autre sens le soir. Ça, c'est aberrant. Mais ça date de choix qui ont été faits il y a 30, 40 ans, et qu'il faut aujourd'hui reconstruire différemment. Alors, on va pas changer la place des tours, évidemment. Et donc, la grande décision qui a été prise depuis quelques années, notamment à la région, c'est de mettre la priorité absolue sur le transport de banlieue à banlieue. On l'a fait à travers du renforcement des réseaux bus Il y a énormément de fréquences supplémentaires qui ont été mises sur tous les bus, voire des créations de lignes comme le 393 dans le Val-de-Marne qui passe pas très loin d'ici. Un réseau de tramway qui est parti quasiment de zéro pour devenir le deuxième réseau de tramway d'Europe. Et on est passé, rien que dans mon mandat de vice-président, on est passé de 350 000 voyageurs en tramway à 1 million de voyageurs en tramway. C'est énorme, on a multiplié par 3. Et puis, il y a évidemment le projet principal qui est le Grand Paris Express. Donc, cette immense rocade de métro qui va doubler le nombre de kilomètres de métro d'ici
vers 2026.
Alors, le Val-de-Marne a beaucoup de chance. C'est-à-dire que le premier tronçon va traverser tout le Val-de-Marne.
Tout à fait.
Et donc, ça va être énorme parce que ça va permettre de relier Créteil à Villejuif et aux villes du Val-de-Marne sans repasser justement par Paris. Et donc, ça permettra à la fois de gagner du temps pour les habitants du Val-de-Marne et de l'ensemble de l'Île-de-France quand la rocade sera bouclée. Mais en plus, ça permettra de désaturer le réseau central, puisque des gens ne seront plus obligés d'aller faire les correspondances à Gare du Nord, à Gare de Lyon ou à Châtelet, et pourront faire du banlieue-banlieue comme ça. C'est un projet énorme, c'est excessivement cher. Cela dit, ça va créer 100 000 emplois. Rien que les travaux du Grand Paris Express, c'est 100 000 emplois créés dans la région Île-de-France, dans le bâtiment, les travaux publics. C'est énorme, c'est un projet colossal qui est de l'ordre à peu près de la création du métro entre 1900 et 1920 à Paris, et avec des investissements qui sont du même ordre. Donc, si vous me permettez, sans faire de polémique, quand j'entends que la région ne fait rien pour les transports, oui, il y a encore beaucoup de progrès à faire, et il faut dire une chose, en matière de transport, notamment ferroviaire, tout est très long. Moi, j'adorerais que ça aille plus vite, mais les travaux, on ne peut pas les accélérer. Un tunnelier, il creuse 12 mètres par jour, c'est pas beaucoup, et il faut le temps, voilà. Et ce qui est aussi important à dire, c'est que en attendant ce nouveau métro, on n'oublie pas le réseau existant et on est en train de renouveler à marche forcée par des travaux sur le RERC, le RERD, le RERB, le RERA. Le Val-de-Marne est le seul département qui a les 5 RER qui passent. Eh bien, on est en train de changer des aiguillages chaque week-end, etc. Les gens sont en colère parce que ils voient pas les résultats. Et quelque part, moi, j'ai un rôle très ingrat, c'est-à-dire que j'étais le vice-président qui a lancé les travaux. Les travaux sont en cours, ça fait en plus du dysfonctionnement, en plus de ce qu'il y avait, et on ne voit pas encore les résultats.
Qui que ce soit,
moi, soit d'autres, on inaugurera des choses qui permettront de voir des beaux progrès. En ce moment, on est au milieu du guet, et c'est le moment le plus dur pour tout le monde.
Pour les usagers.
J'essaie de parler un peu franchement.
Non, mais d'ailleurs, aujourd'hui, on n'est plus des usagers, on est des clients. Alors,
je ne sais pas.
Moi aussi. Alors, mais le temps, il nous reste environ 5 minutes. Éducation. Bon, la région en charge les lycées. Bon, je me rappelle ici dans le Val-de-Marne, tous les ans il y a l'opération SOS Rentrée. Des jeunes qui n'arrivent pas à trouver de place dans les collèges ou les lycées. Qu'est-ce que vous, écologistes, proposez ?
La région, elle a en charge en fait pas le contenu des enseignements, puisque ça c'est l'éducation nationale, mais tout ce qui est en gros ce qui facilite en fait la vie de la communauté lycéenne, et notamment des bâtiments. Et donc, elle a un rôle très important de rénovation des lycées et de construction de nouveaux lycées. Alors, en même temps, ce qui est très compliqué, c'est qu'on est dans une région où le bâti est déjà très, très dense. Et dans les endroits où il y a besoin de construire des lycées, je vais prendre un exemple que je connais très bien, puisque c'est à Vincennes. À Vincennes, ça fait 12 ans qu'on attend un nouveau lycée. La région, elle a mis les budgets pour créer ce lycée. Et sauf que le terrain sur lequel elle doit construire, le maire de Vincennes, qui se trouve être mon concurrent tête de liste pour Valérie Pécresse, depuis 12 ans, n'a pas réussi à devenir propriétaire du terrain. Il est embringué dans des conflits juridiques avec les anciens propriétaires. Et aujourd'hui, la région attend qu'on lui donne le terrain. Et ça, c'est multiplié par 10 ou 15 dans toute la région. Donc, c'est compliqué. La région a vraiment des crédits à mettre, mais c'est les villes qui doivent mettre à disposition un terrain. Et le maire de Vincennes, qui m'accuse souvent de ne pas aller assez vite sur les transports, ça fait 12 ans qu'il doit mettre en place un terrain pour le lycée de Vincennes, qu'on attend toujours et qu'on finit par désespérer de voir arriver. Comme Valérie Pécresse sera là tout à l'heure, soit vous avez des choses à faire cet après-midi, vous coupez la radio et vous allez vous promener. Mais si vous l'écoutez, ce serait bien que vous lui posiez la question sur le lycée de Vincennes. Pourquoi son candidat tête de liste dans le Val-de-Marne n'arrive pas à libérer le terrain pour que la région puisse construire ce lycée?
Je tâcherai de ne pas l'oublier. Pierre Cerne, je rappelle, vous êtes tête de liste Europe Écologie Les Verts dans le 94. Dernière question, comment mobiliser les électeurs en sachant que on est dans un climat, on est en état d'urgence, il faut le rappeler. Donc tout le monde a été sonné, je passe l'expression, par les attentats. Apparemment, ça profite à l'extrême droite. Selon les derniers sondages qui tombent, apparemment, ça profite. Alors, comment mobiliser les électeurs ?
Il y a une chose, c'est déjà qu'effectivement, les gens se rendent compte que s'abstenir dans un contexte comme aujourd'hui, alors que le droit de vote est par définition un peu le principe même de la démocratie, et que quelque part, les terroristes, à quoi ils s'attaquent ? Ils s'attaquent justement à nos libertés, à la démocratie. Et une manière de dire, quelque part, de faire un beau bras d'honneur à ceux qui ont essayé de nous casser la tête le 13 novembre, c'est aussi d'aller voter. À la rigueur, j'ai envie de dire presque, et je vais un peu retirer ma casquette, d'aller voter pour qui que ce soit. Moi, des taux de participation à 40%, je trouve que personne, un soir comme ça, d'une élection où 40% d'électeurs seulement se sont déplacés, personne ne devrait être content. Qu'il ait gagné ou perdu, personne ne devrait être content. Et moi, j'espère qu'on va repasser au-dessus des 50, voire même qu'on va arriver à 60%. Et très sincèrement, je pense que se réfugier chez des gens qui cherchent des boucs émissaires et qui montent les Français et les habitants de ce pays les uns contre les autres, c'est franchement pas eux qui sont utiles en ce moment. Je vois bien que les gens se réfugient dans ce vote Front National par colère, par peur. Je pense que c'est vraiment le pire des choix à faire. Je sais pas comment l'expliquer. On a besoin de plus de fraternité, de plus d'humanité, et vraiment c'est pas ce vote-là qui va permettre. Ces gens-là vont prendre des postes pour pas exercer les fonctions. Ils s'occuperont pas des lycées, ils s'occuperont pas des transports. Ils vont juste trouver des tribunes pour continuer leur discours de haine. Et franchement, j'espère que des gens... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration portugaise, qui écoutent votre radio. Ne pas oublier d'où on vient et qu'on a été aussi stigmatisé à une époque. Et penser que mettre le doigt et montrer du doigt l'étranger, c'est pas la solution qui permettra d'avancer.
Et quand on assimile une population au terrorisme, la population a été stigmatisée. C'est un communiqué du MORAP, d'ailleurs. Et j'espère avoir une conseillère municipale, justement, de Saint-Denis, tout à l'heure.
C'est très inquiétant ce qui se passe en ce moment. On montre du doigt des gens qui n'ont rien à voir. Juste une chose. Relisez le nom des victimes, des 130 victimes. Il y a des Fatima, il y a des Mohamed, arrêtons de penser...
Une vingtaine de nationalités.
26 nationalités, 26 nationalités dans les morts du Bataclan et de ces terrasses. Souvenons-nous de ça. Franchement, comment on peut montrer du doigt une population alors que ceux qui ont été visés, c'est pas des Français ou des ceci ou des cela, c'est des gens qui voulaient juste boire un coup à une terrasse. Souvenons-nous de ça. Et fraternité, humanisme et la vie. Et le Front National, c'est tout le contraire de ça, franchement.
Pierre Cerne, merci. Je rappelle, tête de la liste Europe Écologie Les Verts. Dans le 94, vous êtes vice-président au transport du Conseil régional et conseiller d'opposition à Vincennes. Merci et bonne
merci
campagne.
Merci.
Bien que c'est
merci beaucoup.
Et on va écouter un petit peu de musique et après on va passer à un thème complètement différent. Dans la mesure où il y a une banque au Portugal qui a fait faillite, et il y a des milliers et milliers d'émigrés qui ont tout perdu. À tout de suite.
Passagem de Nível. O encontro semanal da informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12h30 e as 14h. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Mais uma vez, boa tarde. Já o disse isto ao meio-dia. Hoje é uma emissão especial com efeito que começou às 12 e vai terminar às 14. Falámos já da campanha de recolha de géneros alimentícios, de roupa e não só, a que está a ser levada a cabo em parceria entre a Santa Casa da Misericórdia de Paris e a Academia de Bacalhau de Paris. Eleições regionais e de França, tivemos Emmanuel Cosse, que é a cabeça de lista de Île-de-France de Europe Ecologie Les Verts. Ela, aliás, que estava na Praça da República e também que vai participar na chaîne que se chama Chaîne Humaine, Praça da República, onde estão mais de 3 mil pares de sapatos. Não se pode manifestar, estamos em estado de urgência, mas pode-se fazer uma cadeia humana, entre aspas. E agora, vamos falar de algo que já estamos a acompanhar há bastante tempo, é a questão dos lesados do BES. A luta continua para recuperar as poupanças. Aqui nos estúdios temos Helena Batista, que é porta-voz do MEL, o Movimento Imigrantes Lesados, aqui em França. Helena, muito boa tarde.
Boa tarde, Sr. Artur Silva. Boa tarde a todos os ouvintes.
Em Portugal? Em Portugal temos um advogado que está a acompanhar precisamente, que já vos acompanhar, Nuno da Silva Vieira.
Exato.
Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Estar a falar convosco.
Muito obrigado por estar precisamente connosco. Ora, começamos, por exemplo, pelo processo. E aí dirijo-me diretamente ao nosso advogado. Ora, qual é a situação atual do processo? Bom, eu sei que talvez não seja fácil explicar, mas enfim.
Muito bem. Eu vou tentar explicar de uma forma bastante generalista, geral, para que todos possam entender aquilo que se passou e a fase em que estamos. Em primeiro lugar, dizer que a resolução do Banco Espírito Santo, em Portugal, foi a primeira vez que aconteceu dessa forma em toda a Europa. Até determinado momento, até a crise que começou em 2008, os bancos podiam falir, podiam ir à falência. E os Estados, os países, faziam injeção de capitais, capitais públicos, para fazer sobreviver essas entidades que, apesar de poderem falir, não o deveriam. Há uma expressão muito interessante que quer dizer que são entidades demasiado grandes para se deixar cair, que têm um interesse para a própria sustentabilidade do país. Mas, com a crise de 2008, os países também aprenderam uma lição. Perceberam que não podiam estar constantemente a injetar dinheiro na banca, porque isso levava a um desperdício dos impostos das pessoas. Com essa situação, a Europa desenhou um modelo chamado resolução. Um modelo que tinha como principal objetivo fazer com que os países não voltassem a colocar dinheiro nos bancos. E se os países não colocavam dinheiro nos bancos, alguém tinha que colocar ou alguém tinha que perder dinheiro. E esse modelo responsabilizava diretamente os acionistas desses bancos. Portanto, se a medida se a medida de resolução fosse aplicada de acordo com aquilo que é a ideia das diretivas comunitárias, o Banco Espírito Santo teria uma resolução, uma intervenção, que faria com que os seus acionistas fossem os principais responsáveis pelas perdas. O que aconteceu em Portugal foi diverso da ideia das diretivas comunitárias. O que aconteceu foi a eliminar completamente todos os credores. Até os credores que nós conhecemos muito bem, que são os imigrantes, os credores que depositaram lá valores na perspectiva de que estavam a fazer depósitos a prazo, que estavam a guardar as suas poupanças, e portanto até esses credores foram colocados de lado pelo Banco de Portugal. Isso é uma clara violação dos direitos das pessoas. É uma clara violação das regras da boa-fé. O Banco de Portugal tomou uma atitude de desrespeito em relação às pessoas e, na minha opinião, que não é única, na minha opinião, o Banco de Portugal violou o direito comunitário, porque aquilo que nós entendemos da diretiva comunitária que impõe a resolução é que tem que haver uma proteção de determinados credores. Os bancos podem fechar, os acionistas podem ser os primeiros a perder, mas os credores têm que ser protegidos. E para terminar esta primeira visão do panorama, deixe-me explicar uma coisa que não aconteceu em Portugal. As leis comunitárias impõem que antes de resolver um banco tem que haver uma avaliação dos seus ativos. E essa avaliação dos ativos tem que ser feita para distribuir valor pelos seus credores, para saber que dinheiro, por exemplo, que dinheiro é que os imigrantes iriam receber com a resolução. O Banco de Portugal não fez essa avaliação, porque decidiu, de um momento para o outro, aplicar a resolução sem avaliar essa resolução. Terminando, então, dizer que neste momento a Itália tem 3 bancos numa situação de catástrofe financeira, catástrofe, buracos gigantescos, e o Banco Central de Itália, o Banco Central, não decidiu a resolução. Decidiu colocar esses 3 bancos em vigilância permanente, mas não aplicou a resolução, porque já aprendeu, com o caso português, que as resoluções mal feitas podem levar a prejuízos enormes para as pessoas. Em relação à situação no tribunal neste momento, os imigrantes desenharam uma estratégia jurídica que passou inicialmente por não assinar o acordo que o novo banco lhes apresentou. Eu lamento que algumas pessoas o tenham feito, tenham assinado esse acordo, porque na minha perspectiva é um acordo em que perdem muito do dinheiro que lá tinham depositado. Mas aqueles que não assinaram esse acordo já notificaram oficialmente, através do tribunal, o BES, o Banco Espírito Santo e o novo banco, dizendo-lhes que nos próximos meses, nos próximos dias, iriam exigir uma indemnização por todos os valores que lá perderam. Portanto, a situação neste momento é a de termos oficialmente notificado já o BES e o novo banco, e nas próximas horas, nos próximos dias, vamos avançar com outros processos.
Ora, Helena Batista, precisamente, não aceitou a proposta de acordo avançada pelo novo banco?
Não. Termina essa questão.
Não aceitou.
Não, eu não aceitei. Faço parte dos que não aceitaram, dos resistentes que não aceitamos aquilo que nos queriam propor, que era uma proposta perversa e bastante complexa e que ia contra aquilo que nós tínhamos feito, porque era admitir que tínhamos comprado ações, aquilo que nós não tínhamos comprado.
Sim, sim, porque há que não misturar as duas coisas. Para cá, o papel comercial e os outros são as poupanças, se posso dizer.
Claro, foram contratos que nos foram vendidos como depósitos a prazo, com capital e juro garantido na maturidade. A partir daí, quando vieram com esta proposta para transitarmos para obrigações, nós, claro que não aceitámos e incitávamos as pessoas a que não aceitassem. Lamentamos, como acaba de dizer agora o Dr. Nuno Vieira, que muitos deles não nos tivessem ouvido e que tivessem assinado.
Ora, isto diz respeito a quantas centenas de pessoas, talvez milhares, portanto, não diz respeito aos imigrantes?
Ao princípio éramos 8 mil imigrantes, 8 mil. Portanto, pela Europa, pela Suíça, pela França, essencialmente, mas agora vieram-nos anunciar números que havia, portanto, 80% que tinham assinado, coisa que duvidamos muito, porque esses números nunca foram divulgados. E portanto, não acreditamos muito que haja esses 80% que assinassem, mas os restantes lutamos para aquilo e reivindicamos aquilo que subscrevemos na altura dos nossos depósitos e não outra coisa.
Mas concretamente, o que é que o novo banco vos propunha?
O que o banco nos propunha basicamente era 60% em obrigações, portanto, não havia qualquer tipo de liquidez disponível à partida. E depois 5% cada ano, até ao sexto ano, 5% do capital investido, até ao sexto ano. Ao sexto ano, de qualquer forma, parava. Parava porque se as obrigações atingissem, portanto, um preço dos 90%, já não havia mais depósitos extras, e se atingisse, que não atingisse, aos 6 anos esses depósitos paravam. Portanto, as pessoas, se tudo corresse bem, até poderiam vir a alcançar aqueles 90% que eles diziam, mas podiam ficar com 30% ou 20% no caso que podia ser evidente.
Mas esta situação pôs muitos imigrantes, digamos, de uma forma, bom, não só foram as economias de anos e anos de trabalho que desapareceram, entre aspas, bom, desapareceram, não é bem o termo, mas há pessoas que hoje têm dificuldades financeiras porque perderam tudo, não?
Sim, há pessoas que até têm dificuldades para pagar os advogados, há pessoas que estão com dificuldades para pagar os impostos, porque agora vêm nos impostos de, anteriores, de, portanto, porque isso tinha impostos, não é? E, portanto, pessoas que estão com muita dificuldade psicológica, problemas de saúde... E que pronto, é verdade que é inadmissível aquilo que fizeram aos imigrantes e através destes imigrantes, que agora se calhar é uma pequena porcentagem que fica, ou metades, ou 30, ou 40, não sabemos, mas através desta porcentagem de imigrantes, julgo que é toda a comunidade imigrante por todo o lado, sejam eles imigrantes lesados ou não, que foram atingidos e que foram maltratados de uma forma ingrata.
Uma última pergunta para o nosso advogado, Nuno da Silva Vieira. Ora, aqui em França, segundo um despacho da agência Lusa, o presidente François Hollande pediu ao ministro das Finanças, Michel Sapin, que analise as queixas da Associação dos Indignados Enganados do Papel Comercial do BES. Finalmente, para os outros tesouros de poupança, não se pode também pedir que haja uma intervenção aqui do Ministério das Finanças francês?
Muito bem. Ainda bem que me faz essa pergunta. De facto, nós enviamos para todos os líderes europeus uma denúncia daquilo que tinha acontecido em Portugal, e enviamos essa denúncia porque achamos que os outros governantes não vão querer resoluções como foi feita em Portugal, e essa denúncia foi geral, portanto nós fizemos essa participação, enviamos essa carta aos governantes em nome dos lesados do Banco Espírito Santo, não apenas do papel comercial, também dos imigrantes. Nós não estamos aqui a fazer uma diferenciação.
Não, então foi a Lusa, hein? Eu estou a me referir aos espaços da Lusa.
Exatamente. A Lusa fez essa comunicação, e muito bem, porque foi verdadeira, mas a Lusa, como recebeu essa informação através de canais que me apresentavam como advogado da Associação do Papel Comercial, acabou por fazer uma notícia verdadeira, mas incompleta. Portanto, essa resposta foi uma resposta para todos os lados. Eu quis vincar exatamente a resposta de François Hollande, por ser o líder de um país onde há um conjunto de imigrantes portugueses levados, e quero descansar os imigrantes dizendo duas coisas. Em primeiro lugar, que para mim é uma grande honra defendê-los. Em segundo lugar, que os lesados do Banco Espírito Santo não têm qualquer diferenciação. Todos os credores que não receberam o dinheiro que tinham no Banco Espírito Santo são lesados. Mas não há dúvida que há dois grupos de lesados que saltam à vista, que são os lesados de papel comercial e os lesados imigrantes, os imigrantes portugueses, porque são pessoas particulares, são pessoas individuais, pessoas singulares, não são empresas que vão comprar produtos requintados ao banco. São pessoas. E julgo até que esta diferenciação que é feita entre papel comercial e imigrantes é uma diferenciação errada, porque ambos são conjuntos de pessoas particulares lesadas. A única diferença é que uns residem em Portugal e outros residem fora de Portugal. Estas comunicações... Eu percebi que me ia fazer uma pergunta.
Não é isso, Nuno da Silva Oliveira. É que estamos limitados pelo tempo. Resta-me à volta de dois minutos. E queria ainda fazer uma pergunta a Helena Batista.
Então,
muito obrigado. E teremos ocasião, à medida que o processo for avançando, que possamos também contactá-lo assim, para ver como as coisas avançam, para informar também os nossos ouvintes aqui.
Muito bem, obrigado, terei um enorme gosto.
Muito obrigado.
Obrigada,
Tânia. Ainda para isto, uma última questão. Ora, a mobilização continua, com que formas atualmente?
Portanto, a mobilização continua, sem dúvida. Estamos a organizar reuniões com os advogados para que as pessoas, todos tenham advogado e todos avancem com ações na justiça. E vamos avançar também com uma manifestação dia 22 de dezembro no Porto, às 11 da manhã, nos Aliados, porque vamos aproveitar de voltar a Portugal os imigrantes na época do Natal e de irmos, de qualquer forma, também fazer saber e pedir ao novo governo que escute os imigrantes, e esperamos que eles o façam, porque é necessário, porque sempre participamos à economia do nosso país, sempre participamos a ajudar o nosso país, e seria bom que eles agora também fizessem alguma coisa por nós.
Novo governo, dado que os partidos estavam na oposição, tinham criticado a decisão tomada pelo governo português, que remeteu para o Banco de Portugal a questão, algo que foi contestado aqui, aliás, pelo antigo líder parlamentar do Bloco de Esquerda, que disse que bastaria um decreto para resolver a situação, para impedir situações. Mas agora, de maneira que...
Portanto, agora esperamos que eles façam alguma coisa, não é? Apoiaram-nos antes de estarem no governo, tanto os que estão no governo como os que apoiam o novo governo. Esperamos que agora não fiquemos esquecidos e que continuem a apoiar-nos e que a nossa luta vá para a frente e que conseguimos ganhar.
Vamos estar atentos a isso e, evidentemente, também contamos consigo para nos dar a informação. E, para aqueles que estão em Portugal no Natal, manifestação dos lesados do BES, dia 22 de dezembro, no Porto.
No Porto, nos Aliados, às 11 da manhã. E vai estar, portanto, o Luís Marques do Mel Portugal, o Nuno Barbosa do Mel Suíça e a Helena Batista, claro, de França. É a primeira vez que vamos estar todos juntos e esperamos que isso tenha impacto também.
Muito obrigado. E agora vamos fazer uma pausa publicitária, acho eu. Ela aí vem. E até já. Até já.
Luís Filipe Reis no Olympia em Paris, desde janeiro às 17 horas. 25 anos de carreira, 25 anos de sucesso.
Minha dor tem o teu nome, minha alma tem sinais de ti.
Luís Filipe Reis, a voz e a emoção. Um espetáculo único, há muito aguardado. 25 anos de canções numa noite memorável.
Eu estou contigo sempre a toda hora, onde quer que seja.
Bilhetes já à venda nos locais habituais.
Les élections régionales, c'est les dimanches 6 et 13 décembre 2015. On ne va pas juste vous dire que c'est important d'aller voter. Pensez aussi à tout ce que gère votre région. Développement économique, TER, lycée, formation professionnelle et bien d'autres domaines encore. À chacun sa raison d'aller voter aux élections régionales les dimanches 6 et 13 décembre 2015. Pour plus d'infos, rendez-vous sur oui-je-vote.fr. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, pensez au vote par procuration.
J'ai trouvé une maison à acheter au village.
Ah oui, mais là-bas...
Elle est superbe.
Non, mais oui, mais là-bas...
Il n'y a pas de problème, on peut faire un crédit depuis la France.
Oui, mais là-bas...
Non, mais on a toutes les garanties.
Oui, mais là-bas, il y a ma mère.
Un client CIC Iberbanco peut financer depuis la France un bien acheté dans la péninsule ibérique en bénéficiant, s'il le veut, d'un taux fixe pour son prêt immobilier. C'est ça, une banque ouverture de monde. Rendez-vous sur cic-iberbanco.com.
CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Voir conditions en agence sous réserve d'acceptation de votre dossier.
Leclerc. Philippe, t'as pris 3 flacons de ketchup Heinz?
Oui, tu m'avais marqué sur la liste d'en prendre.
Oui, mais pourquoi t'en prends tout de suite 3?
Ah oui, pourquoi 3? Peut-être parce qu'en ce moment chez Leclerc, t'en achètes 2, le troisième est offert. C'est bien ça comme raison.
Oh, d'accord.
C'est parce que les enfants l'adorent que du 25 novembre au 5 décembre chez Leclerc, pour l'achat de 2 flacons de 700 grammes de ketchup Heinz, le troisième est offert. Voir modalité dans les magasins participants.
Et puis on a toujours besoin de ketchup Heinz dans une maison avec 2 enfants.
Voire 3.
Pour votre santé, bougez plus.
passage à niveau ce dimanche 29 novembre 2015, élection régionale le 6 et le 13 décembre avec nous, Madame Valérie Pécresse, tête de la liste Île-de-France, conseillère régionale, députée Les Républicains des Yvelines. Il faut rappeler, ancienne ministre du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. En 2010, dans les régionales, vous avez obtenu 43,3% et M. Jean-Paul Huchon, 56,7%. Alors, les sondages, apparemment, vous donnent, disons, vous avez des sondages favorables. Je ne sais pas ce que vous en pensez des sondages, d'ailleurs.
Oui, alors, moi, je les prends comme, j'allais dire, pour l'instant, la reconnaissance du travail que nous avons accompli depuis 4 ans. Puisque depuis 4 ans, je parcours toute l'Île-de-France pour en connaître toutes les réalités, territoire par territoire, département par département, ville par ville. Donc je pense que ces sondages qui sont effectivement favorables, mais qui restent très serrés, je pense que ces sondages sont la sanction de ce travail. Mais je ne m'assieds pas sur les sondages. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet, c'est notre projet, parce que les Français ont été frappés tellement douloureusement il y a une semaine qu'ils attendent de nous beaucoup plus, et ils attendent de nous de l'espoir et de la résistance au terrorisme.
Alors, COP 21, on est en état d'urgence avec tout ce que cela suppose. Alors, l'écologie et surtout le futur de la planète dite bleue, c'est très important. Qu'est-ce que vous attendez de cette COP 21 ?
Moi, j'attends évidemment un accord de toutes les grandes nations, parce que je crois que cette question du dérèglement climatique est vraiment une question importante, et notamment importante pour les pays du Sud. Nous souffrons aujourd'hui en France de flux migratoires très importants. Ces flux migratoires d'étrangers en situation de clandestins qui viennent d'Afrique subsaharienne parce qu'ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins chez eux. Ces flux d'Afrique subsaharienne, évidemment, ne feront que croître si la question du climat n'est pas traitée. Donc, il faut des résultats pour la COP, il faut des résultats pour l'Afrique, je le dis, et puis il faut évidemment que la COP 21 elle commence en Île-de-France, parce que ça fait 10 ans que les socialistes et les Verts gèrent la région Île-de-France, et on est la région la plus polluée d'Europe, et ça nous asphyxie littéralement les Franciliens.
Alors, ça n'empêche qu'un certain nombre d'entreprises françaises qui sont à l'international, surtout qui sont dans le secteur de l'énergie et pas seulement, qui exploitent des centrales au charbon. Alors, il y a des entreprises qui, ici, participent même à COP 21, des envoyés. Nous, on fait des efforts, on investit sur les énergies alternatives et, par ailleurs, affrontent des affaires avec des centrales atomiques à l'étranger. Centrales atomiques, et pas seulement, mais surtout au charbon.
Vous savez, il y a toujours des paradoxes. Moi, je ne suis pas pour la décroissance. Je crois que nous devons avoir de l'emploi en France, nous devons créer de la dynamique économique. Je crois que le fléau qui touche l'Île-de-France est le fléau du chômage. Nos entreprises doivent vivre. Et moi, je veux être un président entrepreneur qui va développer des marchés pour l'Île-de-France, qui va donner la priorité aux PME de l'Île-de-France et aux produits locaux d'Île-de-France. Donc, moi, j'assume d'être dans une dynamique de développement économique. Mais, vous savez, il y a des paradoxes. Les Verts, qui disent qu'ils agissent pour l'environnement, ont fait fermer les centrales nucléaires en Allemagne. Les centrales nucléaires allemandes ont fermé, ils ont rouvert des centrales à charbon. Et aujourd'hui, on sait qu'en Île-de-France, quand le vent souffle de l'Est, eh bien, on a des particules fines qui viennent d'Allemagne et que certains de nos pics de pollution sont provoqués par les centrales à charbon allemandes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut se coordonner tous ensemble pour faire une politique ensemble pour les nouvelles énergies. Et les nouvelles énergies, ça commence en Île-de-France. Là aussi, c'est pas normal que l'Île-de-France importe quasiment 100% de sa production énergétique. Nous devons développer la géothermie. La géothermie, vous savez, on a des nappes d'eau chaude sous l'Île-de-France. Il faut les faire remonter à la surface pour chauffer nos bâtiments. Géothermie. La méthanisation. La méthanisation, c'est brûler les déchets. Si on trie les déchets et qu'on les brûle, on produit du gaz, et ce gaz, ce méthane, on peut le mettre dans des véhicules utilitaires, des mairies, dans des bus, ce qu'on appelle au gaz naturel véhicule. Donc il faut qu'on réutilise, en plus on réutilise nos déchets, donc c'est de l'économie circulaire, on utilise les déchets au lieu de les enterrer.
Ouais, je suis bien d'accord avec vous, mais pour cela, il faut que ça doit être fait au niveau national, parce que au niveau, la région ne peut pas toute seule faire ça.
Ah, la région peut faire des tas de choses. La région peut développer des filières méthanisation. Nous avons un grand plan méthanisation qui, malheureusement, n'a été adopté qu'en 2014 avec beaucoup, beaucoup de retard. Donc, la région peut encourager la méthanisation. La région, elle achète les bus. Donc, si la région dit « j'arrête d'acheter des bus diesel et j'achète des bus électriques ou des bus au GNV, au gaz », à ce moment-là, la région donne une impulsion. Si la région dit « j'aide à financer les bornes électriques de recharge », elle donne une impulsion à la voiture électrique. La région a été à l'origine de la création d'Autolib. C'est grâce à la région que Autolib a pu voir le jour, parce que les Verts, qui étaient contre les véhicules électriques, ont refusé de le voter. Donc c'est une alliance, ce jour-là, entre les socialistes et l'UMP à l'époque, qui a permis de créer Autolib.
Alors, ces régionales vont avoir lieu dans un contexte assez trouble. Les gens ont en tête ce qui s'est passé le 13 novembre. Comment faire campagne et parler des choses de vraies? Parce qu'apparemment, quand on écoute la campagne des uns et des autres, bon, c'est les grands problèmes nationaux, c'est cela, mais sur le terrain?
Alors, pas du tout. Hein. Nous, notre campagne, elle est vraiment, j'allais dire, territoire par territoire. On parle aux habitants de leurs problèmes, de leur tramway, de leur lycée, de leur emploi. C'est vraiment très territorialisé. Mais ce qui est vrai, c'est que nous devons aujourd'hui construire un bouclier de protection pour les Français. Et ce bouclier de protection, la région peut aider à le construire. Parce que la région Île-de-France, c'est très particulier, c'est la seule région de France à avoir un budget sécurité, avec une convention avec le ministère de l'Intérieur, qui nous permet de financer des commissariats. On a financé le commissariat de Rincy, du Rincy, de Clichy-sous-Bois. Ça nous permet de financer des casernes de gendarmerie, des gilets pare-balles pour la police, des armes pour les policiers municipaux qui en ont besoin aujourd'hui. Et on sait malheureusement l'accident tragique qui s'est produit à Villiers-sur-Marne avec la mort d'une policière municipale il y a quelques années. Et le deuxième policier municipal qui était là n'a dû sa vie sauve qu'au fait qu'il était armé. Donc on a besoin de la région pour aider. J'ai vu les directeurs de salles de spectacle, j'ai vu les commerçants qui nous demandent de les aider à s'équiper en vidéoprotection, en portique. La région peut créer un fonds d'équipement pour la sécurité et ce sera ma première décision si je suis élue présidente de région le 13 décembre.
Alors une question, on parle de région, mais laquelle? Un certain nombre de compétences sont encore incertaines. Alors comment on fait? C'est-à-dire on fait une réforme, on dit aux gens on va voter. Et après, les élus, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire exactement. C'est le monde à l'envers.
Alors, la région, pour faire simple, c'est 11 milliards et demi d'euros. 11 milliards et demi. 6 milliards et demi pour les transports. Les transports, c'est le quotidien des Franciliens. On va faire la révolution.
Ouais, on va y venir.
6 milliards pour les transports et 5 milliards pour le reste. Dans le reste, il y a quoi? Il y a d'abord le développement économique. On est dernier de France, mais c'est notre compétence. La formation professionnelle, on est dernier de France, c'est notre compétence. Et puis les lycées, les universités, la recherche, le logement, évidemment beaucoup de choses en matière d'environnement du coup. Mais le vrai sujet, il est simple. Il n'y a que 8% des chômeurs qui sont en formation financée par la région. Ça n'est pas acceptable.
Donc on peut faire mieux.
Mais on peut faire beaucoup mieux. Et on a 100 000 emplois qui ne sont pas pourvus parce qu'il n'y a personne de qualifié pour aller dans ces emplois. L'autre jour, j'étais à Montreux, au campus numérique, où ils apprennent à poser de la fibre optique. Tout le monde veut du très haut débit en Île-de-France. Et bien, il manque 5 000 salariés qualifiés pour poser la fibre optique. Si on ne les forme pas, on n'aura pas de très haut débit. Et c'est de l'emploi pour 20 ans. Et bien, ce campus, 0 euros de subvention régionale, 0 euros de crédit européen.
On va faire une pause publicitaire. On revient dans 2 petites minutes.
Faire des travaux et vous cherchez du béton, SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB, 01 43 89 53 35.
Le l'offre 4G de Bouygues Télécom qui va suivre peut provoquer une excitation extrême et un trouble du langage se traduisant par l'utilisation excessive du mot « kiff ».
Ah, je kiffe, là. Tu vois ce que je veux dire? Je kiffe, en fait, je kiffe.
Alors, c'est normal, vous kiffez.
Le Noël de Bouygues Télécom, la 4G est illimitée le week-end pendant 6 mois dans les forfaits 3Go et plus, et nos clients en profitent automatiquement. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr.
Ah bah je kiffe, 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 kiffe.
Offre soumise à condition.
Allez hop, c'est The Big Weekend chez Darty. Et 1 et 2, on prend les prix. Et 3 et 4, on les réduit. La machine Magie Mix Nespresso là-bas à 185€, hop, on la passe à 69.
Jusqu'au 30 novembre, toute l'équipe Darty est prête pour l'opération The Big Weekend. Profitez d'offres exceptionnelles comme la machine Magie Mix U-Milk Nespresso noir pur à 69€ au lieu de 185, soit plus de 60% d'économie.
Après remboursement différé par Nespresso d'un montant de 60€, voir conditions de l'offre en magasin ou sur darty.com.
Dernier jour du Crazy Weekend Auchan. Et aujourd'hui dimanche, les magasins sont ouverts. On peut encore profiter de plein d'offres exceptionnelles comme sur les couches Pampers avec 70% d'économie.
70% avec la carte Auchan?
Oui, 70% crédité en euros sur ton compte Wahoo pour l'achat d'un pack de couches Pampers Baby Dry format Jumbo à 25,99€, soit le pack 7,80€ cagnotte déduite. Merci le Crazy Weekend Auchan.
Auchan, la vie que j'aime.
Crazy Weekend, le week-end de folie. 35 000 packs taille 3 à 5+, conditions et magasins ouverts sur Auchan.fr.
Salut, c'est Steve, ventriloque de radio. Vous voulez un forfait Virgin Mobile avec un prix de fou, genre 1,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 4,99€ par mois, sans engagement avec 3 heures d'appel, SMS et MMS illimités, 200 MO de data?
Mais c'est le cadeau idéal pour Noël, hein, seulement 1,99€ par mois.
C'était une de mes autres voix.
Offre promotionnelle réservée aux nouveaux clients jusqu'au 14 décembre. SMS, MMS, 99 destinataires différents max par mois et appel en France métropolitaine hors numéro surtaxé. Carte SIM 10€ prix conseillé. Détails de l'offre sur virginmobile.fr.
Rendez-vous en boutique sur virginmobile.fr ou appelez le 10 05, 6 centimes d'euros minimum, prix d'un appel.
Passagem de nível. O encontro semanal da informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12h30 e as 14h. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Eleição regional, passagem de nível, ce dimanche 29 novembro, avec nous, Madame Valérie Pécresse, tête de la liste Île-de-France, conseiller régional, député Les Républicains des Yvelines. Une liste, et il faut le dire, Les Républicains, UDI et MoDem, il faut le préciser.
Oui.
Alors, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de transport, ceci et cela. Bon, justement, transport. Apparemment, il y a un certain nombre de projets qui sont en route. La région a mis un certain nombre de projets en route que on va, bon. En principe, ça va aider à...
Alors, il faut accélérer, il faut complètement accélérer la révolution des transports. Nous avons aujourd'hui besoin que ça aille beaucoup plus vite. Les projets de la région, malheureusement, ils s'étalent jusqu'à dans les 10 prochaines années. Mais les Franciliens n'attendront pas 10 ans. Donc, moi, sur mon mandat, je propose que tous les trains, d'ici la fin du mandat, c'est-à-dire d'ici 2021, soient neufs ou rénovés sur tous les trains et tous les RER. Alors, comment on fait ça? Ben on fait ça en faisant des économies sur le budget de la région. Parce que le problème, c'est que la région, elle gaspille votre argent. Elle gaspille l'argent des impôts. On a 5 hôtels particuliers dans le 7e arrondissement de Paris. Et comme ça coûte trop cher, comme c'est pas facile de mettre les fonctionnaires dans des hôtels particuliers, on a 26 millions d'euros de loyer. Donc moi, j'ai dit, je vends les hôtels particuliers. Je pars de l'autre côté du périphérique. Je fais 26 millions d'euros d'économies. Pareil, on a un journal qui tire à 3,5 millions d'exemplaires en journal papier que personne ne lit. Donc, on supprime tout ça, on supprime toute cette kyrielle d'organismes qui permettent à tous les, à toutes les conseillers régionaux de gauche d'avoir des secrétaires, des voitures de fonction, des collaborateurs. On supprime tout ça, on fait des économies, 400 millions, et ça nous permet, avec ces 400 millions, de faire la révolution des transports et de rénover le matériel roulant.
Alors, le logement, bon, la région n'est pas, ça fait pas partie de ses compétences, bien que.
Dans la nouvelle loi, on nous a mis la logement. Voilà. Alors oui, personne n'y comprend plus rien parce que tout le monde, du coup, est compétent pour le logement, la région, la métropole et les communes.
Alors,
et l'État.
Oui, par rapport au logement, on sait qu'il y a une crise de logement. Il y a une crise économique. Il y a plein de gens qui ont des bas salaires et qui ont des difficultés. Il faut pas oublier les retraités à qui ont vu, bon, leur retraite n'augmente plus, etc., etc. Il y a un secteur du logement social. Alors, il y a une polémique au sujet d'une certaine affirmation que vous aviez fait, quand la présentation de votre programme. Vous êtes contre le logement social? Qu'est-ce que...
Alors, pas du tout. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait arrêter de faire des ghettos. Parce que quand on fait des ghettos, eh bien,
Il n'y a plus d'ascenseur social dans ces ghettos. Les professeurs ne veulent plus aller y enseigner et les populations, les classes moyennes s'enfuient. Et donc, on fait des ghettos urbains. Des ghettos urbains, je vous rappelle que dans ces ghettos grandissent des enfants qui se mettent à détester la France et parfois qui partent faire le djihad ou porter les armes contre leur propre pays.
C'est les conditions sociales qui sont interrompues.
Je veux lutter contre les ghettos. J'assume de dire, c'est tabou, j'assume de dire que la mixité sociale, c'est dans les deux sens. Il faut du logement social dans toutes les villes. Il en faut partout, il faut respecter la loi. Et je ferai respecter la loi. Mais en revanche, et là où c'est un problème, c'est qu'il faut arrêter de construire du logement très social, là où il y en a déjà plus de 30%. Il faut construire du logement intermédiaire pour les classes moyennes. Il faut de l'accession sociale à la propriété. Moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont zéro. On devrait être tous en train d'acheter notre logement, puisque les taux d'intérêt sont zéro. Pour le prix d'un loyer ou presque, on devrait pouvoir devenir propriétaire. Eh bien, c'est le contraire qui se passe. En Île-de-France, il y a de moins en moins de propriétaires, parce qu'on ne construit pas assez. Ça, c'est la loi du flot, hein, c'est grâce au gouvernement.
Déjà avant.
Ça a quand même tout bloqué, parce que, comme malheureusement, elle empêche les propriétaires de louer au prix qu'ils veulent. Donc, la loi du flot a bloqué la construction. Et la deuxième problème, c'est que On ne fait plus assez l'accession à la propriété. La région ne finance plus l'accession à la propriété, ni de logement pour les classes moyennes. Moi, j'assume de dire qu'il faut du logement pour tout le monde.
Oui, alors, mais le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de villes, hein, dont, sans mordre les fossés, normalement pas plus loin. Vincennes, c'est un petit peu différent, mais enfin, je pourrais comme ça parler de certain nombre de villes dans le département du Val-de-Marne où ça se passe. Ils disent, il y a un problème foncier, on n'a pas un terrain. Alors, où est-ce qu'on va construire, justement, pour avoir cette mixité sociale? On va imposer aux maires un certain nombre de choses?
Alors, d'abord, j'ai entendu Manuel Valls, qui a dit, en Ile-de-France, il y a 8 villes qui ne respectent pas leurs obligations de construction de logement social. 8. Et dans les 8, si je me souviens bien, 8 sur 1260. Et dans les 8, je crois qu'il y a la métropole d'équilibre de Périgny, 2000 habitants, et il y a Ormesson, 10 000 habitants. Ce n'est pas en réglant le problème à Périgny, à Ormesson, qu'on va régler le problème de 500 000 franciliens mal logés. La vérité, c'est qu'il faut que tous les maires construisent.
Mais qu'on arrête de stigmatiser
les maires de droite. Alors moi, quelque chose m'a frappé. Il y a ce qu'on appelle l'établissement public foncier d'Île-de-France. Cet établissement public, il est là pour résoudre le problème que vous soulevez. Où sont les terrains? Mais promenez-vous dans le Val-de-Marne, promenez-vous dans l'Essonne. Enfin, du terrain, il y en a partout, du terrain disponible. L'autre jour, j'étais avec le maire de Villejuif qui me montrait tous les terrains sur lesquels il pourrait faire de la construction. Le problème, le terrain existe, mais le président de région s'est complètement désintéressé de cette question. Jean-Paul Huchon ne siégeait pas à l'établissement public foncier. Moi, j'ai dit que je présiderais l'établissement public foncier et qu'on allait aller acheter les terrains et on allait les porter et on allait aider les maires à faire leurs opérations. J'ai créé un club que j'ai appelé le club des maires reconstructeurs, dans lequel il y a le maire de La Haye-les-Roses, dans lequel il y a le maire de Villejuif. Et on va reconstruire, le maire de Limay-Brévan, on va reconstruire. Pas construire des cubes de béton sur des dalles de béton, construire des vrais quartiers avec des toits, des balcons, des espaces verts, un esprit village, des commerces en pied d'immeuble.
Il y a des services publics aussi, non ?
Et les services publics. Mais vous savez, les services publics, ils viendront s'il y a les commerces. C'était tout un quartier qu'il faut reconstruire. Nous allons construire des quartiers et plus des cités. Nous voulons une Île-de-France à visage humain. Nous voulons assumer l'identité pavillonnaire de l'Île-de-France aussi. Parce que moi, j'entends aussi les Verts. Ils disent qu'il faut détruire tous les pavillons. Mais on ne veut pas d'une Île-de-France des grands ensembles. On veut aujourd'hui que l'Île-de-France retrouve son esprit village. Et même les grands ensembles aujourd'hui, on peut les humaniser davantage. C'est ça notre projet urbain pour l'Île-de-France. Et ça passe par de là. Construction. Et je serai moteur de cette politique de reconstruction de l'Île-de-France.
Écoutez, on va voir aussi si l'État suit, parce que bon, c'est une question.
Mais vous savez, en Île-de-France, c'est pas un problème financier, parce que il y a beaucoup d'argent qui veut s'investir sur le logement en Île-de-France. C'est pas un problème financier. Le problème, c'est un problème administratif, il y a beaucoup de contraintes, c'est un problème de volonté. Et puis, il faut aussi convaincre les maires, parce que rien ne se fera sans les maires. Et le gouvernement qui essaye de leur imposer des trucs, il se trompe. Parce qu'un maire, il a été élu au suffrage universel. C'est lui qui est légitime pour dire ce qu'il veut pour sa ville. Et les habitants ont confiance parce qu'ils se disent, si le maire construit du logement social, ce sera du beau logement social. Et donc, il faut qu'on ait les maires avec nous.
Alors, les lycées. Les lycées, au point de vue de l'éducation, bon, c'est par le contenu, finalement, par le contenu, c'est pas une compétence de la région, il paraît. Mais vous avez un certain nombre de propositions, même des stages, concrètement.
Alors, les lycées, c'est
L'éducation nationale s'occupe des enseignants et elle s'occupe des programmes. Mais la région est propriétaire des lycées. Donc on peut faire des choses extraordinaires avec les lycées. D'abord, on peut aider les proviseurs à faire des programmes pédagogiques adaptés. Moi, je suis absolument sidérée de voir, je le dis à Radio Alpha, ça tombe bien, je suis sidérée de voir qu'avec des millions de jeunes franciliens issus de l'immigration, on n'utilise pas tous ces franciliens qui parlent des langues étrangères comme des ambassadeurs du développement économique de la région. Je suis sidérée de voir que c'est si difficile de trouver des classes internationales, des sections portugaises, que c'est si difficile de trouver des sections en chinois, que c'est si difficile de trouver des sections en arabe. Nous avons besoin aujourd'hui de développer les sections internationales dans nos lycées. Moi, j'ai proposé qu'on en ait 80 nouvelles, 10 de plus par département, de façon à ce que on puisse utiliser ce capital humain extraordinaire
cette
que
richesse,
nous avons.
C'est une richesse.
C'est une richesse extraordinaire. Et l'Île-de-France doit faire le pari de la globalisation, mais de la globalisation conquérante. On est les meilleurs, j'ai envie de le dire ici, parce que je trouve qu'on passe son temps à se dire, on passe son temps à s'auto-flageller, à dire qu'on n'est pas bon, à dire qu'on ne fait pas assez, etc. Il n'y a aucune raison qu'on soit dépassé par Londres. Aucune. Il y a 20 ans, Londres, c'était moche, c'était sale, il n'y avait pas de magasin ouvert, personne n'avait envie d'aller y habiter, la Tamise, ça ressemblait à rien. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est dynamique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des élus qui ont envie de porter un territoire, ils peuvent tout changer. Mais bon, ça prend du temps. Mais il faut qu'ils soient à 100% aussi. Moi, j'ai dit 100% région, alors que tous mes adversaires expliquent qu'on peut être député et président de région. C'est impossible. On ne peut pas faire de la politique nationale et en même temps résoudre des problèmes de transport, de pollution, de logement, d'éducation de l'Île-de-France. Ce n'est pas possible.
Alors, lutte contre les violences faites aux femmes. On a une journée pour ça, une journée pour ceci. Normalement, ça doit être un combat quotidien. Entre-temps, le Front National, plus exactement Mme Marion Le Pen, dans son programme, bon, c'est vrai que c'est un PACA, veut qu'on arrête de subventionner un certain nombre d'associations qui s'occupent, justement, non pas seulement des femmes, mais qui permettent également de l'accès à l'information.
Oui, et planning familial.
Voilà, planning familial. Voilà.
Non, mais attendez, moi, je ne suis pas du tout dans cette logique. Oui, je vais faire le tri dans les associations qui sont subventionnées, parce que la région subventionne de manière très opaque des associations qui sont surtout des associations politiques. Hein. Je pense à ATTAC, je pense à Sortons du colonialisme, je pense à toutes ces associations dont on se dit, mais quel est le rapport avec la région? Vous voyez, quel est le rapport? Pourquoi est-ce qu'il a fallu dépenser 75 000 euros pour fêter l'anniversaire de la mort de Salvador Allende? Je veux dire, bon, Salvador Allende n'est pas francilien, je ne vois pas ce qu'est l'intérêt de fêter l'anniversaire de sa mort. Donc on a des guettes de la gabegie sur les associations, donc il faut faire le tri. Moi, je vais faire la transparence. Je demanderai à toutes les associations de mettre leurs projets sur Internet. Mais en revanche, on a besoin des associations pour tisser le lien social. Donc j'ai dit que toutes les associations d'utilité publique, je continuerai à les subventionner et que par ailleurs, toutes les associations d'intérêt régional, celles qui ont un travail éducatif, j'ai été voir les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Jean-Paul Huchon avait fait une chose de très bien, c'est qu'il avait donné priorité à ces femmes dans les logements sociaux de la région et on va continuer.
Madame Pécresse, merci. Je rappelle, vous êtes tête de liste Île-de-France. J'ai choisi Valérie. C'est jeu de mots, c'est exprès que vous avez collé tout ça.
Alors oui, on a pris que, enfin, c'est mes partisans qui ont décidé que le hashtag, vous savez, le hashtag sur les réseaux sociaux, ce serait j'ai choisi Valérie. Mais parce que en réalité, je pense que on est devenu tellement proche, on est une équipe. Et c'est vrai que voilà, ils ont voulu mobiliser tout le monde. J'ai choisi Valérie.
Voilà, les Républicains, UDI, MoDem, Madame Pécresse, merci et bonne campagne surtout. Il faut pas oublier que il faut réagir, il faut aller voter.
Merci. Merci Radio Alpha.
Merci. À très bientôt.
Claire. Leclerc.
Allô Philippe, dis donc, je suis chez Leclerc. Xbox One 500Go, 299€ au lieu de 349 pour un cadeau de Noël.
C'est quoi ce prix de dingue?
Bah c'est chez Leclerc, 50€ de remise immédiate sur le prix de la Xbox One.
C'est parce que Noël approche que du 27 au 30 novembre chez Leclerc, la console de jeu Xbox One noir 500Go est au prix exceptionnel de 299€, dont 67 centimes d'éco-participation. Retrouvez cette console sur espaceculturel.fr. Voir modalités dans les magasins participants.
Une Xbox One à ce prix-là, c'est déjà Noël chez Leclerc.
Allô papa, j'ai oublié l'anniversaire de mamie à Lisbonne et j'ai pas réservé de billets d'avion.
Prends vite deux billets avec Aigle Azur pour le vendredi soir, comme ça on part après le travail.
Super, je le fais tout de suite.
Week-end, famille ou affaires, Aigle Azur c'est plus de 20 vols au départ de Paris-Orly vers Lisbonne, Porto, Faro ou Funchal. C'est plus de services et des horaires adaptés, le tout à partir de 57€ TTC l'aller simple. Réservation sur aigleazur.com ou dans votre agence de voyage. Offre soumise à condition pour des voyages en aller simple, frais supplémentaires pour bagages en soute. Aigle Azur. En connexion avec votre monde.
Soche présente.
Chat s'en va et chat revient. J'ai fait de tout petit rien.
Chez Déjà Noël, c'est chausse. Pendant un an, le forfait à 19,99€ est à 9,99€ par mois. Profitez-en sur soche.fr avec le code Soche Noël. Soche, c'est sur le réseau Orange, réseau mobile numéro 1.
Rapport Arcep 2015. Promotion valable en métropole jusqu'au 13 décembre 2015 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 19,99€ par mois. Détails sur soche.fr. Kit main libre recommandé.
Soche! Luso Voyage, a sua agência de viagens portuguesa em Paris. Se ainda tem intenção de ir passar o Natal a Portugal, consulte a agência Luso Voyage, onde encontrará bilhetes de avião ao melhor preço. Não perca mais tempo e visite-nos no número 205 Rue de la Croix-Nivert, em Paris 15, ou ligue 01-58-45-6204.
Leclerc.
Chérie, j'ai racheté des ailes de poulet chez Leclerc pour emporter au bureau. Les coquelles de Maître Coq, c'est bien celles-là qui sont à tomber.
Oui, oui. Ah, mais tu t'en es carrément pris 3 paquets.
Ben disons qu'en ce moment, chez Leclerc, t'en achètes 2, le troisième est offert.
Ah oui, oui, ben oui.
C'est parce que c'est possible de manger sur le pouce à petit prix que du 25 novembre au 5 décembre chez Leclerc, pour l'achat de 2 sachets de 250 grammes coquelles Maître Coq achetées, le troisième est offert. Transformé en France à partir de viande d'origine France. Variété au choix. Voir modalité dans les magasins participants.
Non, mais c'est dingue ça. Je m'en achète autant que je veux des ailes de poulet.
Je t'entends.
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Je reviens en direct, il nous reste environ 7 minutes. Quand on parle de Saint-Denis, quand on parle de département de Seine-Saint-Denis, il y a des gens qui disent 9-3. Et dernièrement, avec tout ce qui s'est passé, eh bien, il y a eu des affirmations qui laissent à réfléchir. Et je vais citer un communiqué du MRAP, Mouvement contre le racisme pour l'amitié entre les peuples, de la Seine-Saint-Denis. Marine Le Pen, fidèle à l'idéologie familiale, écrit au sujet de Saint-Denis. Hier, tombeau des rois, aujourd'hui, tombeau du modèle français, vivier du terrorisme. Avec nous, une conseillère municipale de Saint-Denis, mais également une conseillère régionale, Sylvie Capanem, bonjour.
Bonjour.
Alors, quand on est un élu local, quand on est quotidiennement avec la population, essayer de résoudre un certain nombre de problèmes, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ?
Bon, je suis élue conseillère départementale
pardon.
Municipale de la ville de Saint-Denis. Je suis aussi d'origine brésilienne, comme vous le savez. Et bon, pour dire, quand on est élu local à Saint-Denis particulièrement, ces sentiments, il est encore très, très vivant. Et on entend de toute la population des discours pour dire, nous sommes discriminés, et l'État ne nous traite pas également. L'image de la Seine-Saint-Denis ou de la ville de Saint-Denis en particulier est très mauvaise. Donc ces tensions sont plus que jamais très, très vivantes dans la bouche de la population en général.
Alors, mais comment réagir quand on est élu? Comment faire pour dire aux gens, vous méritez autant que les autres, il ne faut pas vous stigmatiser?
Oui, bon. Déjà, bon, on le fait depuis très longtemps. Hein. Saint-Denis est une ville de tolérance, de solidarité et d'égalité. Donc, il faut multiplier ces espaces de solidarité et d'égalité. Donc la vie associative, ça passe par tout ce qu'on fait depuis très longtemps. Aussi autour des sinistrés du 48 rue de la République, donc de Corbillon, l'immeuble où on a envahi, où la police a fait l'assaut. C'est important aussi de les accompagner et aussi de réclamer fort aussi qu'il agit dans l'engagement de l'État, que l'État doit le prendre en charge et les reconnaître en tant que victime. Et ça, c'est important parce que ça peut aider aussi donc, tout ce combat pour aider l'image même de la ville de Saint-Denis, de la population qui est ici, elle mérite aussi d'être traitée avec dignité. Et en plus que ça, je pense aussi que nous devons agir encore plus, et ça au niveau du département aussi, et on commence à y réfléchir, pour le changement d'image du département. Mais ce n'est pas un changement d'image, mais c'est plutôt la valorisation de l'image du département. Parce que c'est un département qui investit, c'est un département où le développement est soutenu, à pleine commune aussi. C'est un département fier de sa diversité, fier de sa jeunesse. Donc il faut valoriser ça et faire un vrai plan de valorisation de l'image du département.
Mais en même temps, je crois que la région et l'État, ils devraient appuyer davantage tout le travail qui est fait, justement, au point de vue culturel, etc., etc. Et l'État, il se dégage, tout ça.
Oui, l'impression que nous avons, les habitants, maintenant, on entend de plus en plus souvent, et les élus aussi, une bonne partie des élus, c'est qu'on n'a pas, c'est une inégalité territoriale. Donc, que le département de la Saint-Denis et la ville de Saint-Denis, en particulier, sont pas traités de façon égale. Le sentiment, là, par exemple, après les attentats, c'est que les victimes de l'assaut de police, elles ne vont pas avoir le même traitement que les autres habitants parisiens. Et c'est aussi, et par exemple, et ça existe aussi au niveau de l'éducation nationale. Il y a des mouvements de parents d'élèves en Seine-Saint-Denis, un mouvement que je mentionne, Bonnet d'âne. Donc, ces parents d'élèves sont mobilisés depuis très longtemps pour réclamer plus de moyens de l'État. Parce qu'ils ont constaté qu'en Seine-Saint-Denis, on avait moins d'enseignants, et en Saint-Denis en particulier aussi. Donc il y avait plus d'absence d'enseignants parce que l'État ne donnait pas les mêmes moyens pour la ville de Saint-Denis que pour d'autres villes. Et ça, ils ont fait appel aux défenseurs de droits, et les défenseurs de droits ont jugé leurs revendications justes et ont demandé que l'État s'engage davantage pour les départements de Seine-Saint-Denis et pour la ville de Saint-Denis. Donc c'est tout ce combat, donc cette lutte auprès de l'État, elle est importante aussi de mener.
Sylvia Capenem, merci. Oui. Et on aura l'occasion de vous inviter ici pour parler un petit peu de votre travail, parce que vous êtes maître de conférences, de portugais, etc., etc. Vous faites plein de choses. Merci et à bientôt.
À bientôt. Voilà.
E chegamos ao fim do programa, já são quase 14 horas, voltaremos aqui na próxima semana, em princípio, digo bem, em princípio, as coisas estão agendadas, temos um especial Mísia com ela aqui nos estúdios. A ver, vamos, como diz o outro. Obrigado, Manuel Xandão, obrigado igualmente à Cristina, um abraço e até para a semana, com música.